Salut, c'est Thomas Rozek. Depuis un mois, nous sommes entrés dans l'ère du grand débat. Vous savez, c'est ce tour de France de la consultation dans lequel s'est lancé Emmanuel Macron pour récolter la parole de nos concitoyens et tenter d'apaiser la colère qui gronde actuellement dans le pays. Des discussions, des heures durant, souvent retransmises à la télévision. Et vous aurez peut-être constaté, comme nous, que les assemblées réunies ne sont pas des plus jeunes, voire qu'elles sont essentiellement composées de personnes d'âge mûr. Comme si la jeunesse, pour employer un mot très vaste, n'avait pas grand-chose à faire dans ces discussions qui pourtant impliquent directement son avenir, puisqu'on y parle de fiscalité, de gestion des deniers publics, de la mutation de l'État, tout un tas de choses qui concrètement vont les concerner peut-être plus longtemps et plus vivement que leurs aînés. Alors certes, une rencontre spécifique a été organisée avec des étudiants et des lycéens, c'était en Saône-et-Loire début février, et on vient d'apprendre qu'une dizaine de ministres allaient participer à une vaste discussion en ligne sur la plateforme de streaming Twitch, évidemment pour capter l'attention des plus jeunes. Quand même, tout ça nous interroge. Pourquoi a-t-on la sensation que ces derniers sont rangés dans une case à part de cette vaste opération de mise à plat? Qu'est-ce que ça nous dit du rapport qu'ils entretiennent avec la politique et que les politiques entretiennent avec eux? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour éplucher en profondeur ce sujet, il nous fallait évidemment une spécialiste. On l'a trouvée en la personne d'Anne Muxel, sociologue, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la socialisation politique, c'est-à-dire de la construction de l'identité politique. C'est à ce titre qu'elle a énormément travaillé sur la jeunesse. Elle a récemment signé l'essai « Politiquement jeune » aux éditions de l'Aube. Je suis allé la voir et je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les jeunes étaient traités comme un cas à part dans ce grand débat.
Ce n'est pas forcément la faute des organisateurs, ni des pouvoirs publics, ni du gouvernement. Il est vrai que quand on va dans les débats qui sont organisés, qui sont très nombreux, c'est vrai que les jeunes n'y sont pas. Donc il faut bien prendre acte de cela et essayer de les rencontrer, autrement. Je pense qu'en tout cas, pour les rencontrer, il faudrait aller d'abord dans des lieux dans lesquels ils peuvent se trouver rassemblés, des lieux qui ont du sens peut-être pour eux, mais surtout cesser aussi de considérer la jeunesse comme un bloc homogène. Il y a des expériences différentes, des conditions différentes de la jeunesse. Quoi de commun entre un étudiant parisien à la Sorbonne ou à Sciences Po et puis un jeune qui travaille dans une petite ville de l'Est ou encore un jeune qui n'a pas de travail du tout. Voilà, il y a là sans doute des expériences différentes, des attentes différentes envers les politiques. Et ça devrait être pris en compte d'une façon ou d'une autre. Et puis encore une fois, la jeunesse n'est pas un bloc homogène parce qu'aussi elle rassemble des âges différents. C'est une période maintenant de la vie qui s'étend sur une période de plus en plus longue, une durée de plus en plus longue. C'est en gros une quinzaine d'années de la vie. Et évidemment, on n'est pas concerné de la même façon par les conditions d'autonomie, d'entrée dans la vie, quand on a 18 ans ou quand on en a 33. Hein, c'est pas non plus la même chose. Et donc, voilà, il faut aussi, pour, je pense, aller à la rencontre de la jeunesse, des jeunes, y aller en les considérant comme... comme pluriel, comme engagé dans des expériences différentes et aussi comme étant porteur d'attentes différentes.
Vous avez souligné un point qui est très révélateur et très intéressant à la fois, c'est que dans ce grand débat, justement dans les débats, les premiers débats qui ont été organisés, il n'y avait pas de jeunes, ça avait été souligné par pas mal d'observateurs extérieurs. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'on peut analyser comme ça pourquoi ils n'y viennent pas?
Parce que je pense que les jeunes ont souvent cette impression, peut-être à tort du reste, hein, mais qu'ils ne sont pas attendus, qu'ils n'ont pas forcément à s'exprimer, ou en tout cas que les décisions qui sont prises en dehors d'eux. Donc peut-être à tort, parce qu'il suffirait qu'ils se montrent plus participatifs, qu'ils décident de s'associer à cette parole, à ces débats, pour que les choses soient différentes. Mais je crois qu'il y a là vraiment une image qui serait à renverser, à changer. Je pense qu'il faudrait faire passer d'une façon ou d'une autre le message aux jeunes qui est qu'ils ont une utilité sociale, qu'ils ont des choses à dire, qu'on peut compter sur eux. Ils sont très en demande de reconnaissance, d'être mobilisés au travers d'une confiance que l'on pourrait leur porter. Là, je suis en train justement en ce moment d'écrire un grand rapport sur la consultation Generation What qui a eu lieu dans plusieurs pays d'Europe et qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de jeunes qui se sont exprimés. Et là, on voit bien que dès qu'on leur demande leur avis, bon, les jeunes participent et il faut simplement les trouver. Alors, c'était une consultation en ligne, donc c'était évidemment une façon peut-être plus facile de les rencontrer. Mais pour prendre, par exemple, l'enquête que nous avons menée dans les lycées avec Olivier Galland, qui a donné lieu à cet ouvrage « La tentation radicale », où on est allé à la rencontre de 7000 lycéens répartis dans toute la France, sur tous les territoires, dans 21 établissements scolaires, où on cherchait à appréhender, à évaluer le degré d'acceptation qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des opinions et des idées radicales en matière de politique et de religion, sur des sujets sensibles, les extrêmes, le terrorisme, la violence, etc., etc. Donc, des sujets et des questions difficiles. Et on s'est rendu compte combien, finalement, ces lycéens étaient très contents d'avoir affaire à notre équipe de recherche et de répondre aux questions qui leur étaient posées. Donc, je crois qu'il y a, d'une part, de grandes attentes du côté des jeunes, de grandes attentes à la fois en matière d'expression et en matière de prise en compte de ce que pourraient être leurs préoccupations, qui ne sont pas d'ailleurs forcément, là encore, nécessairement dissociées des préoccupations des générations plus âgées. Parce que ces jeunes vivent dans des familles, ils ont des parents, des grands-parents, et ils voient très bien aussi ce à quoi ces personnes qui les entourent ont à faire face. Donc, ils ne sont pas étrangers à ce qui se dit aujourd'hui dans ces grands débats. Mais il faut leur permettre de penser qu'ils sont attendus et que leurs opinions peuvent aussi intéresser et compter sur ces questions. Donc, ils ont un grand besoin d'expression. Et puis, ils sont aussi tout simplement intéressés hein, que leur problème, alors qu'il peut leur être spécifique, soit pris en compte par les pouvoirs publics.
Oui, justement, c'est une des choses qui est ressortie de cette rencontre entre Emmanuel Macron et les jeunes, c'est que les thématiques abordées, qui étaient donc au choix des participants, pour le coup, qui n'étaient pas imposées par l'exécutif, les thématiques abordées étaient très différentes de celles qui étaient abordées dans les autres rencontres avec la population, qui là, pour le coup, étaient un peu sur les mêmes, sur des questions de fiscalité notamment, des questions d'environnement, ce genre de thématiques. Là, c'était d'autres sujets, c'était le harcèlement, c'était l'autisme. Il y a eu comme ça des sujets qui n'avaient pas été abordés. C'est aussi peut-être une richesse quelque part. Peut-être que la jeunesse, justement, est pertinente parce qu'elle va aller sur des territoires sur lesquels on ne s'est pas encore exprimé, peut-être.
Oui, bon, je pense que c'est de toutes les façons assez intimidant dans le cadre d'un débat préparé où chacun a une seule question à poser. Avec le président de la République, c'est quand même assez intimidant de formuler l'idée d'un dialogue qui soit vraiment constructif, même si Emmanuel Macron a toute la bonne volonté, j'imagine, pour le faire. Mais c'est pas forcément dans ce cadre-là, je pense, qu'il faudrait entamer un dialogue, un vrai dialogue avec les jeunes. Je crois que pour ça, ça se prépare. Je pense qu'il y a aussi tout un travail préalable, faire en sorte de rencontrer des jeunes qui ont déjà, qui se connaissent un petit peu, qui peuvent discuter entre eux, d'essayer d'organiser un minimum de délibération sur des questions sur lesquelles ils peuvent se prononcer. Moi, je crois que ce dont les jeunes ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'avoir des représentations sur ce vers quoi la société va. Et ce vers quoi la société va concerne très clairement leur avenir. Il y a une panne de projection dans l'avenir aujourd'hui. Et les politiques sont la plupart du temps assez frileux, assez timorés pour finalement permettre aux citoyens et particulièrement aux jeunes de se projeter, ne serait-ce que parce qu'il y a des questions qui bloquent tout de suite. La question de l'intégration dans la société, de la nécessité rudimentaire d'y trouver une une place, c'est-à-dire un travail. Et quand on sait que, par exemple, dans un pays comme le nôtre, eh bien, le chômage touche une proportion très importante, parmi les plus importantes des pays européens, des jeunes. Donc, on voit bien que là, ce sont des réponses que, jusqu'à maintenant, ni les gouvernements de gauche, ni les gouvernements de droite qui se sont succédés n'ont réussi à améliorer. Donc, on voit bien que cette question de l'emploi, de la possibilité d'acquérir au travers de l'emploi non seulement la reconnaissance de compétences pour lesquelles on a été éventuellement formé, mais aussi la possibilité pour les jeunes d'accéder à une autonomie financière, une autonomie résidentielle, une autonomie de vie, ce à quoi la plupart aspirent bien sûr, hein, et bien ça, ce sont des vraies questions. Mais au-delà de cela, il y a aussi des problèmes plus vastes, hein, qui mobilisent les jeunes. Et je pense notamment à l'ampleur que prend un enjeu tel que l'écologie, l'environnement, hein, dont on voit bien que c'est une question qui préoccupe les jeunes parce qu'il s'agit bien de l'avenir, parce qu'il s'agit bien de savoir effectivement dans quel monde ils vont pouvoir vivre plus tard. Et donc, cette inquiétude qui s'exprime, et qui suscite d'ailleurs la mobilisation très concrète, hein, de jeunes, bon, par exemple en Belgique, en Suède, dans d'autres pays européens, il y a déjà des mobilisations très actives qui se font. Ça vient en France. Vendredi, je crois qu'il y a des mobilisations aussi qui sont prévues par les jeunes sur ce point. Voilà, là, bien un débat, hein, qui pourrait être mené. Pas simplement en parlant de transition écologique, de transition énergétique, qui sont des mots un peu techniques, mais bien de parler de l'avenir de la planète, de l'avenir de la société dans laquelle on vit, au vu des équilibres, hein, écologiques qui sont profondément mis en péril. Et donc ça, je crois que ce sont des questions qui peuvent, là, pour le coup, vraiment beaucoup concerner les jeunes. Mais les politiques sont assez à la fois timorés, prudents, parce que ce sont des questions qui mettent en jeu tellement de choses que c'est difficile, c'est vrai.
Vous luttez, Anne Mixel, depuis des années contre une idée reçue, c'est que les jeunes seraient dépolitisés. Ils sont politisés, toujours, les jeunes ?
Ils sont politisés au sens où l'on entend la politique dans son sens premier, c'est-à-dire l'intérêt que l'on peut porter pour le monde qui vous environne, pour des questions touchant la vie collective. Ça, oui, je pense que les jeunes sont tout à fait concernés, impliqués, capables de se mobiliser. Il y a une énergie propre à la jeunesse qui fait qu'elle se mobilise. Simplement, quand elle le fait, elle le fait en dehors plutôt des institutions et des organisations politiques traditionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, les jeunes n'ont plus confiance dans les partis. Enfin, pas que les jeunes d'ailleurs, n'ont que peu confiance dans les syndicats, croient davantage aux mobilisations sur des enjeux pouvant déboucher sur des actions politiques très concrètes. Donc, il y a une demande d'efficacité politique aussi qui se fait et qui s'accommode assez mal de la lourdeur des appareils partisans, politiques ou des médiations traditionnelles de l'action politique. Donc, ça, c'est vrai que ils font de la politique, et quand ils font de la politique, eh bien, ils vont rechercher plutôt des voies d'expression directe, des mobilisations, des actions qui pourront se faire remarquer. Ils savent parfaitement utiliser les réseaux sociaux, les médias, tous les moyens nouveaux, les moyens numériques, pour mettre en scène finalement, hein, une cause ou un objectif qu'ils cherchent à poursuivre. Mais il est faux de dire que les jeunes sont aujourd'hui repliés sur un individualisme frileux, égoïste, et qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui les entoure. Et je crois que la question environnementale, et c'est pour ça qu'il y aurait notamment au travers des élections européennes sans doute un enjeu fort qui pourrait peut-être les concerner, parce qu'ils sont très en retrait des élections européennes. Ils ne se saisissent pas du tout de la possibilité d'exercice que cette citoyenneté politique au niveau européen peut permettre. Mais peut-être qu'au travers de la question environnementale, et je pense que c'est plus ou moins en train de se profiler, eh bien, voilà, les jeunes peuvent accéder peut-être à quelque chose d'une action politique qui s'intégrerait dans un cadre plus institutionnalisé, plus formel.
On a beaucoup parlé en 2017 de l'explosion, on va dire, du système classique des partis, de la fin de ce système-là et de l'émergence de nouvelles formes, on va dire, de mobilisation politique. Est-ce que, comme pour les Français, de manière générale, on va dire, chez les jeunes, ça se ressent aussi une nouvelle approche de la politique, une recomposition de la manière d'appréhender la politique?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser qu'avec un candidat jeune et devenu le plus jeune président de la République sous la Ve République, avec sa volonté de s'affranchir du système politique tel qu'il est enfermé dans la bipolarisation gauche-droite, par exemple, en voulant passer un nouveau monde et en jetant tout un vieux monde incarné par les partis politiques, justement toutes ces formes traditionnelles et façons de faire de la politique, il aurait pu normalement rencontrer l'intérêt des jeunes. Alors, ça n'a pas été le cas. Les jeunes n'ont pas particulièrement voté pour lui. Et on voit bien que depuis qu'il est au pouvoir, il n'intéresse qu'à moitié les jeunes générations, indépendamment effectivement de ce mouvement de contestation et de cette impopularité très forte qui pèse sur lui et qui est assez partagée, quelles que soient d'ailleurs les générations. Donc là, il y a un hiatus, une sorte de contradiction qui mérite analyse, qui mérite de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que les jeunes, à la fois, cherchent à sortir, en tout cas beaucoup d'entre eux, à sortir du clivage gauche-droite. Ce ne sont plus forcément pour eux des notions très opérationnelles pour comprendre le monde environnant. Voilà, ils ne croient plus trop non plus aux médiations politiques traditionnelles. Bon, bah, c'est Emmanuel Macron a donné l'exemple qu'on pouvait vaincre une élection sans être soutenu par un parti politique, en tout cas traditionnel, en s'affranchissant du rapport de force gauche-droite. Ça aurait pu, là encore, les séduire. Le jeunisme, on dit aussi beaucoup que les jeunes se tiennent à distance de la politique institutionnelle parce que, un, ils ne se sentent pas représentés, deux, parce qu'ils sont aussi en demande de renouvellement de la classe politique, et c'est vrai que c'est généralement les mêmes. Donc là, on avait à la fois un candidat jeune, on avait un renouvellement, puisque quand même il n'était pas dans le paysage politique jusque-là, en tout cas en tant qu'élu à des fonctions de représentation. Eh bien, ça n'a pas suffi. Donc, cela veut bien dire que il ne suffit pas de vouloir changer les choses, rajeunir, parce que le rajeunissement quand même de la classe politique est réel, hein, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de déconstruire les repères, de les bousculer, de vouloir s'en affranchir. Je crois que les jeunes ont au contraire besoin de repères, ils ont besoin de sens et ils ont besoin, même si ça peut sembler un paradoxe, mais ils ont besoin de discours forts. Et donc ces discours forts, pour l'instant, ils les trouvent, en tout cas pour les plus politisés d'entre eux, les plus mobilisés, ils les trouvent aux extrêmes. Ils les trouvent soit à l'extrême gauche au travers de France Insoumise, soit à l'extrême droite au travers du Rassemblement national. Là, ce sont des forces politiques qui sont portées par des leaders forts, qui tiennent des discours accessibles en ce sens qu'ils mobilisent des repères auxquels les jeunes peuvent se raccrocher. Des repères, somme toute, assez simples aussi, et peut-être plus simples pour eux à comprendre. Donc, dans le reste de l'espace politique, eh bien, ils ne trouvent pas justement soit du côté des partis dits de gouvernement, en tout cas des forces classiques, que ce soit au Parti socialiste d'une part ou parmi les Républicains d'autre part. Ils ne trouvent pas dans les forces modérées de repères forts qui peuvent les mobiliser, d'enjeux constituants, en fait, d'une implication, d'une défense d'un projet de société qu'ils pourraient juger valable et qu'ils auraient envie de défendre. Alors, soit on a aux deux pôles, hein, dans le cadre de cette polarisation finalement des enjeux politiques, aux deux extrêmes, soit là, ils trouvent une force de mobilisation qui les engage. Donc, n'oublions pas qu'un jeune sur deux, lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, a donné ses voix soit à France Insoumise, soit en plus grand nombre, 30%, les 18-24 ans, soit Rassemblement National, 21%, ça fait quand même 51% des voix. Soit après, il y a toute une partie des jeunes qui, finalement, se mobilisent peu, restent en retrait, sont plus indifférents et qui attendent probablement qu'une personnalité forte, fortement incarnée, engagée, puisque ça, c'est vrai que ce sont des valeurs auxquelles les jeunes tiennent, cette question de l'engagement personnel, qui soit capable de donner du sens à un projet politique et qui permette une représentation sur cet avenir, hein, voilà, qui engage la société, mais qui engage aussi l'avenir personnel de tous ces jeunes. Voilà, ça c'est ce qui pourrait peut-être ramener une plus grande part de jeunes à la politique.
Et parmi les sujets brûlants qui pourraient susciter un réveil politique de la jeunesse, il y a donc évidemment le climat. C'est notamment ce qui motive un phénomène de plus en plus fréquent, les grèves scolaires, pour réclamer la prise de conscience qui se fait attendre. On aura l'occasion d'en reparler très vite dans un prochain épisode. Merci à Anne Muxel pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @ binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.